Alors, shalom à tous. Je suis Yoel Ben Arouche. J'enseigne ici au Machon une fois par semaine pour l'instant, le mardi généralement, entre midi et une heure. Et donc depuis quelques années, ceux qui ont déjà l'habitude d'étudier, nous étudions des sujets qui concernent en fait une vision profonde des thèmes du judaïsme, notamment la Emouna, qui se traduit par la certification en fait, la certitude de notre état naturel divin. C'est-à-dire que Israël naturellement est collé au divin parce que le divin a créé le peuple d'Israël de telle manière à ce qu'il puisse être en fait le révélateur de Dieu sur terre. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la Teshuvah, puisque nous sommes dans le mois de Elul, pas loin de Rosh Hashanah et de Yom HaKippurim. Et le sujet de la Teshuvah est énorme, il est très grand, et beaucoup de thèmes viennent se greffer à l'intérieur. Aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu du prix de la Teshuvah. C'est-à-dire, la Teshuvah a un prix à payer. Quel est ce prix? Que représente la Teshuvah? On va essayer un petit peu, peut-être en deux temps. Nous allons avoir peut-être encore un cours après Rosh Hashanah. Peut-être même la semaine prochaine, il y a cours mardi. On verra. Bezrat Hashem. On va essayer de faire ça en plusieurs parties. Ha Teshuvah hitnuat kol hayesh lashuv el mekoro. Alors c'est un cours que j'ai écrit concernant donc ce sujet. La Teshuvah est un mouvement de toute la création, la Shuvel Mekoro, de revenir vers sa source. Ça veut dire qu'en hébreu, le mot Teshuvah vient du mot Lashuv. Lashuv veut dire revenir. Donc Teshuvah veut dire un retour et veut dire aussi une réponse. Quand on revient en fait à quelque chose, on a la réponse. On a la réponse à quoi? Généralement, on a une réponse à une question. Mais le judaïsme vient nous donner une nouveauté. Qui existe avant qui? Est-ce que la question existe avant la réponse? Ou est-ce que la réponse existe avant la question? Alors, d'après la logique, on pose une question, puis on a une réponse. La Torah dit l'inverse. C'est parce qu'il y a une réponse qu'on peut poser une question. S'il n'y avait pas de réponse, il n'y aurait même pas eu de question. On va traduire maintenant la réponse et la question par la création et ce qu'il y avait avant la création. La création du monde, c'est la création d'une question. Ce monde, dont l'essentiel est l'homme, nous fêtons Rosh Hashanah, je vous le rappelle, pas le jour de la création du monde, mais le jour de la création de l'homme. En effet, le premier Tishrei, c'est déjà 6 jours après la création du monde. La création du monde a eu lieu le 25 du mois de Elul. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, bien que nous disions pendant la Tfila Hayom Harat Olam, aujourd'hui le monde a été engendré, nous parlons en réalité de la création du premier homme. Pourquoi nous fêtons la fête du premier homme, l'anniversaire du premier homme, le jour où on croit tout le monde que c'est la création du monde? Mais tout simplement parce que le but même du monde, c'est d'arriver à son sommet, la création de l'homme. L'homme est le secret de toute la création. Donc, tant qu'il n'y a pas d'homme, en fait, le monde ne sert à rien. Quand je dis homme, je veux dire un être qui dévoile l'éthique divine. Tant qu'il n'y a pas une éthique, une morale divine dans ce monde, eh bien le monde ne sert à rien. Donc on attend en fait l'apparition de l'homme, celui qui est capable de faire ça. Donc même si c'est 6 jours après la création du monde, le dernier jour en fait c'est le jour de Rosh Hashanah. Donc, le 6e jour de la création, c'est notre premier jour de l'année. Et donc la création de l'homme. Ce jour-là, l'homme est en valeur numérique 45. C'est-à-dire que l'homme, par définition, c'est une question. 45, c'est deux lettres en hébreu. Ma, mem et he. Donc, l'homme est une question. Ça veut dire que Dieu a créé en fait une question. Il a créé l'homme, il a créé ma. Et d'ailleurs, il vient d'un degré qui s'appelle Adama. Il vient de la terre qui est en réalité le degré de la question. Or, si on pose une question, c'est qu'il y avait déjà une réponse. Donc la réponse va venir après l'homme, bien qu'elle se trouvait avant lui. Et d'où nous savons que la réponse existait avant la création du monde, eh bien la Gemara dans le traité de Pessachim, à la page 54, nous dit clairement « Tshuva kadma laolam ». La Tshuva a précédé la création du monde. Donc avant même qu'il y ait création du monde, il y avait déjà la notion de Teshuva. Je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire avant ? Avant, il n'y a pas de temps. Puisque la création du monde, c'est une création de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avant ? Eh bien, tout simplement, quand on parle de avant et après, on parle de cause et effet. Je retraduis donc. C'est pas qu'avant la création, il y avait déjà la Teshuva. C'est que le but même, la source, la cause même de la création du monde, c'est la Teshuva. Le monde a été créé pour la notion de Teshuva. Donc si le monde a été créé pour la Teshuva, on va placer dans ce monde l'homme qui est lui-même la question par définition. Et cette question en réalité va avoir un seul travail, c'est à retrouver la réponse qui existe déjà. Est-ce que c'est trop compliqué ou ça va ? Ceux qui ne comprennent pas, je répète. Donc moralité, je fais un récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire pour ceux qui viennent d'arriver. Essayez d'arriver à l'heure parce que c'est dommage. Le cours commence à l'heure et termine à l'heure. Je suis très ponctuel et je n'aime pas dépasser ni dans un sens ni dans un autre. Et ceux qui ratent un petit peu le début, c'est un petit peu dommage. Ken.
J'ai du mal à comprendre. Le monde, il a été créé pour l'homme.
Nahon. Pour qu'il puisse trouver la question, la réponse qui existe déjà. Tout à fait. À l'intérieur de l'homme se trouve la réponse, en fait. Mais pour retrouver une réponse, il faut se poser la bonne question. Donc l'homme lui-même, c'est une question. Et si tu te poses les vraies questions, tu trouveras en réalité la réponse qui existe déjà. C'est à toi de la découvrir, mais elle existe. Tu ne vas pas inventer une réponse. On n'invente pas une réponse une fois qu'on a posé une question. Non. On pose une bonne question pour découvrir la réponse qui existe déjà. Elle attend dans un coin. Même avant la création du monde. Et lorsque le monde est créé, que l'homme pose les vraies questions, donc il joue son rôle, il est en valeur numérique ma, eh bien, il reçoit automatiquement, s'ouvre devant lui la porte de la réponse qui existait déjà. On appelle cette réponse, en hébreu, la teshuva. Ça veut dire que la teshuva, en fait, c'est la réponse à toutes les questions de l'homme. Et c'est un degré qui existait avant même que l'homme ne soit ici sur terre. Autrement dit, nous sommes dans une situation où toute la création du monde est une création de questions, et toute cette question qui est en réalité le monde tout entier ne tend que de revenir vers la réponse qui existe déjà bien avant. Okay.
Le rapport de création de l'œuvre, en fait, c'est la création de la
Nechama. Création de la Neshama d'Israël, qui est elle-même dévoilée dans le premier homme. Le premier homme, c'est l'ensemble de toutes les âmes.
La Teshuva, c'est quelque chose d'actif, c'est pas quelque
chose de passif. Enfin, Alors, la Teshuva, c'est une forme active, mais pas de l'homme, forcément.
Parce qu'on a tendance à imaginer une réponse, quand on parle de réponse en général, de quelque chose de passif.
Tout à fait. C'est pour ça que je dis que la Teshuva n'est pas n'est pas une passivité, mais ce n'est pas seulement l'activité de l'homme. La Teshuva est un mouvement que Dieu a placé dans le monde. C'est-à-dire qu'il a créé ce monde avec un mouvement naturel de revenir vers lui. D'où est-ce que vient ce monde ? De lui. Donc, La nature des choses, c'est de revenir toujours à celui qui t'a créé. Par exemple, le feu monte toujours vers le haut. Même si j'allume un briquet à l'envers, la flamme va monter. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est attirée par sa source. La source de ce monde, c'est lui, béni soit-il. Donc ce monde, d'une manière naturelle, automatique, il a un mouvement de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Donc de dévoiler Dieu. Donc chaque jour qui passe, en fait, on ne fait que de se rapprocher de Dieu. Depuis la création du monde, on ne fait que de se rapprocher de Dieu. Qu'on le veuille pas, toute la création, tout entière, avance vers le dévoilement de Dieu. Les arbres, les pierres, les animaux et les hommes. Il y a un mouvement de dévoilement, tout doucement, qui s'opère, et le monde a été créé pour 6000 ans, et au fur et à mesure de ces 6000 ans, on se rapproche de plus en plus. C'est pour ça que les deux millénaires étaient tohu bohu, on ne voyait rien. Après, il y a 2000 ans de Torah, on commence à comprendre un petit peu ce qu'il veut de nous. Et 2000 ans de jour messianique, là on commence à comprendre un petit peu plus et beaucoup plus jusqu'au Mashiach lui-même. Donc on ne va que vers une avancée. Le monde du judaïsme est un monde optimiste. On ne fait que se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un mouvement qui existe dans l'univers tout entier. Tout revient vers son créateur. Et nous, les hommes, on doit utiliser ce mouvement naturel qui existe déjà pour nous aussi rentrer à l'intérieur et utiliser, profiter de ce mouvement pour nous aussi revenir vers notre source. C'est tout naturel, tout simple, mais il faut trouver aussi que le véhicule qui nous amène vers la bonne direction. Si tu ne trouves pas cette bonne direction, au lieu d'aller vers le mouvement du retour vers lui, tu t'éloignes encore plus. Donc la véritable punition, ce n'est pas de recevoir des coups, c'est de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et la véritable bénédiction, ce n'est pas de recevoir un petit cadeau, c'est de se rapprocher de son essence. D'accord ? Plus on se rapproche de lui, plus on est dans le degré de la vie, plus on s'éloigne de lui, chas v'shalom, plus on va vers l'inverse. Donc la Teshuvah est un mouvement, je reviens à la première phrase. De toute l'existence, kol hayesh, la shuv el mekoro, de revenir vers sa source. Zoi ishtokekutam shel hachaim, lachzor el mekor hachaim. Donc il y a une avidité de toute la création, de toute la vie, de revenir vers celui qui donne la vie. Ken, si tu prends un perroquet qui vient de naître, il ne sait pas où est sa maman, tu commences à lui donner à manger, il va croire que c'est toi. Parce que naturellement, il cherche en fait le retour vers celui qui le fait vivre. Eh bien, la création du monde, elle vient du créateur du monde. Donc tout le monde, d'une manière naturelle, revient, cherche à revenir vers lui. Donc l'homme profondément à l'intérieur de lui est croyant. Il sait qu'il existe une force divine qui dirige ce monde, qui a créé ce monde. Même si on s'éloigne un petit peu, même s'il y a différentes religions, même si nous ne sommes pas une religion, peu importe, tout le mouvement de l'humanité, la plupart des hommes du monde sont croyants. D'une manière ou d'une autre, d'appliquer cette croyance. Et d'une manière naturelle, toute la création est croyante. Même les animaux. Le fait qu'un chat miaule, c'est parce qu'il respecte sa nature, donc il est croyant. À son niveau. Il ne se déguise pas en chien. Il reste chat. Et il a les mêmes mouvements toute sa journée. Toute sa vie, durant des millénaires. Pourquoi? Parce qu'il reste naturel, identique à son essence. L'homme doit être comme ce chat, mais beaucoup plus haut. À son niveau d'homme. Et Israël doit être à son niveau, Israël, et tout le temps jouer le rôle qu'il devait jouer. Le chat a été créé pour se nettoyer la patte, pour après lisser ses poils, eh bien le peuple d'Israël a été créé avec quelque chose de très spécifique et il doit l'utiliser de la même manière. Ok. Israël, évolue vers ce dévoilement. Ce dévoilement est infini, puisqu'il vient de l'infini. Donc il n'y a jamais de fin. Nachol. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Mais déjà, joue ton rôle. Essaie de revenir à ton essence. Okay? Alors, c'est vrai qu'à la différence des animaux, chez les animaux, la donnée naturelle est active. Et chez Israël, la donnée naturelle n'est pas active. Il faut nous l'activer pour la retrouver. Kechol shegdela ha'akara atzmit. Et plus tu prends connaissance de ce que tu es, donc il faut étudier qui nous sommes. Vous avez des cours, c'est ce que vous êtes venu étudier au Machon Meir, des cours d'identité. C'est-à-dire, vous devez d'abord reconnaître qui vous êtes. Quand vous vous regardez dans la glace, vous devez vous poser la question, qui est cette identité qui se trouve dans moi? Qui suis-je? Où est-ce que je me trouve dans le monde que Dieu a créé? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que je fais ici? Lorsque Adam se perd un petit peu dans la faute et qu'il consomme le fruit interdit, il va se cacher. Et Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, le cherche dans le jardin. Et il le cherche dans le jardin et il lui pose la question à Yeka. Okay? Alors dans vos traductions erronées en français, il y a marqué « Où es-tu ?» Comme si Akadosh Baruch Hu cherchait l'homme qui s'est caché. Okay? La véritable traduction, c'est « Où en es-tu » C'est-à-dire « Je te vois, je sais qui tu es, je sais où tu te caches, mais ce n'est pas ça qui est en train d'être important maintenant. Est-ce que toi, tu sais qui tu es ? Où en es-tu dans ta vie ?» Ça, c'est le « Ayeka ». D'ailleurs, les initiales de « Ayeka », c'est « Anochi Yodea Kol Hanistarot ». Je connais tous les secrets, je n'ai pas besoin de te chercher à l'intérieur d'un jardin quand tu es caché dans un arbre. C'est ridicule, c'est la Torah pour des enfants. Et même ça, c'est interdit d'enseigner à des enfants, ce niveau-là. Il faut comprendre que la discussion ici est une discussion profonde entre l'homme et son identité. C'est exactement ce qu'on est venu faire au Machon Meir. Au Machon Meir, on vous pose face à vous-même. On ne va pas vous forcer à faire les choses. On n'est pas une yeshiva qui force à étudier, à vous casser la tête, pas du tout. On va vous mettre selon vos responsabilités, on va vous dire, regarde, ici on cherche notre identité. Celui qui veut la trouver, il faut qu'il bosse. Celui qui veut se la couler douce, eh bien c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'années comme celle-ci. Ceux qui sont déjà passés par là peuvent savoir le bonheur qu'il y a d'étudier parce qu'on approfondit en réalité jusqu'à retrouver qui nous sommes. Jusqu'à ce que tu deviennes certitude de ta vie. Tu es certain de ta vie. Car dans le monde de la Emouna, de la foi, il y a 3 degrés. Il faut d'abord avoir foi en Dieu, comme créateur du monde et comme celui qui conduit le monde. Après, il faut avoir foi en ses maîtres de Torah, dans les Rabbanim, qui vont être en fait les conducteurs de cette lumière divine. Et en fin de compte, il faut avoir foi en soi. C'est-à-dire, il faut que tu te respectes toi-même et que tu sois certain de ta vie. Si tu n'es pas dans la certitude totale de ce que tu fais, il y a en fait une chaise à 2 pieds, ça ne tient pas. Donc il faut s'étudier, c'est ce que nous sommes venus faire ici, nous étudier notre peuple, étudier notre identité. Eh bien, la teshuva, en réalité, ça va être naturel. Ça va être en fait quelque chose de naturel. Une fois que tu commences à étudier ta personnalité, une fois que tu commences à étudier ton identité, naturellement, tu fais teshuva. C'est pas un ordre religieux. Fais teshuva, on va te punir en enfer. Okay? Ça, c'est rapetissir le créateur à un allumeur de four. Chas v'shalom. Okay? On n'est pas au catéchisme. On parle de responsabilité, nous devons chercher en fait notre identité pour revenir vers la source de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire revenir vers la source de la vie? Pas nous éloigner de ce monde, mais au contraire, faire descendre le plus de divin dans ce monde, tout en restant dans ce monde. Donc soyez des hommes normaux, avec des réactions normales, une attitude normale, et faites descendre de plus en plus de divin sur terre. Vivez avec des valeurs divine. Pensez avec des pensées divines. Voyez les choses avec des yeux du divin et pas seulement avec un œil humain qui est limité. Tout ceci, c'est ce qu'on apprend ici. C'est ça la teshuva. C'est de découvrir le but même de la création du monde, de ce qui était avant le monde. Ken? Mishe Shamar Alatsmiuto, donc celui qui a gardé, qui a observé, qui a préservé son identité, Veloy Shrit et Trushav, qui n'a pas détruit ses sens, car la faute détruit les sens. Quelqu'un qui faute, ses sens ne marchent plus. Il n'arrive plus à. Il n'a plus de bonnes antennes. Ses antennes sont détériorées. Il n'arrive plus à capter, en fait, la véritable émission. Chaque fois qu'il allume la radio, il entend. Au lieu d'étudier Kol Israël Mirushalayim, il entend une autre émission. Pourquoi? Ben tout simplement parce qu'il n'a pas un moyen de capter. Ben c'est la même chose dans le degré de nos fautes. Fauter, c'est en réalité casser son antenne, casser la capacité de capter l'énergie. Donc on va entendre d'autres émissions. Ne vous étonnez pas qu'il n'y a pas de moyen dans le monde. Ou tu reçois une émission ou tu reçois une autre. Il n'y a pas de vide. Donc si vous ne recevez pas l'émission du Kodesh, automatiquement vous allez recevoir une autre émission. Et donc celui qui a préservé ses sens, celui qui a gardé ses antennes, Yodea tov yoter et ma'amado kenivra, connaît et reconnaît encore mieux que les autres sa situation d'être créé. Shomed michutz la havaya Elohit vechay mimena. Et il sait qu'il est créé, émané de Adakadosh Baruch Hu, et que nous vivons de sa vie à lui. J'explique avec d'autres termes. Toute notre vie, en réalité, c'est sa vie. C'est la vie de l'éternité. Comment s'appelle Akadosh Baruch Hu en hébreu? Havaya. Le nom que vous voyez, le tétragramme, on l'appelle en hébreu le nom de l'existence. Shem Havaya, en hébreu, lihiyot, être. Donc le nom de Dieu, c'est le nom de l'être. L apostrophe. E-T-R-E. Autrement dit, quand j'étudie, en fait, Akadosh Baruch Hu, j'étudie la vie. J'étudie celui qui donne la vie et celui qui fait vivre tout de sa vie à lui. Donc nous vivons tous de sa vie. Et si j'apprends ça, si j'étudie ça, si j'approfondis cette étude, je m'aperçois qu'en réalité, à chaque fois que je fausse la route, je renvoie en fait le divin de moi-même, Chas v'Shalom. Je lui dis, écoute, Akadosh Baruch Hu, laisse-moi tranquille un petit peu, j'ai pas très envie d'être le canal de ta lumière. Et Akadosh Baruch Hu, comme il ne force personne, il te dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je te laisse tranquille. Et quand il sort de toi, effectivement, tu te sens tranquille, mais pas pour longtemps, parce que tu es vite mort. Car quelqu'un qui n'est pas rempli du divin est dans un état de mort. Il est en train de se vider, en fait, de ses énergies. Il n'a plus aucune force. Il devient dépressif, il devient triste, il devient lourd, il devient peiné. Il n'a plus d'optimisme dans la vie, il ne voit plus clair dans sa vie. Tu veux voir clair dans ta vie, tu veux être heureux, tu veux être plein, tu veux être riche, eh bien, ouvre la porte de ton être au passage naturel d'Akadosh Baruch Hu en toi, car c'est lui qui te fait vivre. Donc nous vivons de sa vie. Si je certifie sa vie, je deviens un homme heureux. En hébreu, être heureux se dit « lihiyot me'ushar ». Traduction littérale, être certifié. Ishur. Est-ce que tu as reçu un ishur, une certification, un certificat? Donc si je suis celui qui certifie le divin, je deviens moi-même un homme heureux. Et c'est très simple, c'est très clair. Il n'y a pas ici d'embrouille. Okay? On n'est pas dans la religion. On est ici dans l'apprentissage de l'identité. Quelle est la différence entre la religion et le judaïsme? Vous savez? Et qu'est-ce que c'est une religion? C'est quoi la religion? Quel est le terme du mot religion? D'où il vient ce qu'on appelle dati? Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Exactement. La religion, c'est quelque chose créé par l'homme. Alors que le judaïsme, c'est Dieu qui descend vers nous. C'est ça la grande différence, c'est tout. Tous les gens qui ont créé des religions, c'est créé par l'homme. Qui dit créé par l'homme dit subjectif ou objectif? Subjectif. Donc ça vaut pas grand-chose, des cacahuètes. Alors que si c'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous, c'est objectif, on est d'accord. Notre Torah, comment on l'a eue? On est allé la chercher ou c'est lui qui est venu nous trouver? C'est lui qui est venu nous trouver. Moralité, notre Torah est objective. Elle vient du ciel. C'est une certitude, c'est une prophétie. Alors que toutes les religions racontent des histoires comme quoi un type s'est baladé un jour et qu'il a trouvé quelqu'un, qu'il a entendu des voix et des machins. Ça commence toujours par l'homme. S'il était malade mental ou pas, personne n'en sait rien. Okay. En tout cas, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Tu nous as choisi et tu es venu nous donner la Torah, on n'a rien demandé. Donc c'est Dieu qui descend sur terre. Ça, c'est le judaïsme. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Nachon. Nachon, c'était un juif. C'est d'ailleurs pas lui qui a fait toute la panique. Ça a été fait 400 ans après qu'il soit déjà disparu. Donc en fait, on ne sait pas exactement où c'en était. Il est un petit peu sorti du chemin parce qu'il fallait avoir un autre rapport avec lui. C'est l'une des fautes de son maître, de ne pas avoir su garder le lien avec son élève. Mais ça a été développé, comme on connaît aujourd'hui, bien après qu'il soit mort. Donc tout ceci... Davar shemolid etzlot noa vetrifa nafshit matmedet. Si tu prends conscience de cette étude, si tu prends conscience de l'état de ton âme, eh bien, se réveille en toi un mouvement de plus en plus fort. Ça veut dire, qui va te pousser en fait à la tshuva? Toi-même. À l'intérieur de toi, tu as un moteur. Ken, on a posé la question la semaine dernière, on m'a posé la question, comment persuader les gens de se réveiller au slichot? D'après vous, tout à fait, en prenant conscience de ce qu'ils étaient. D'ailleurs, si tu as un moteur en toi, avec une prise de conscience de ce que tu es en train de faire maintenant, eh bien, tu n'as même pas besoin de réveil. Parce que quand il arrive l'heure des slichot, ton corps ne peut plus dormir. Il va se réveiller naturellement. Mais si les slichot, c'est encore une fois quelque chose d'extérieur, c'est encore une fois une face très juive de chanter des chants à 4 heures du matin quand même malade, je préfère rester au lit. Okay? Parce que je n'ai pas pris conscience de ce que représente en fait cette force. La même chose au niveau de la tfila. Les gens qui ne savent pas prier, c'est tout simplement parce qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils disent et à ce que représente la tfila. Et la même chose au niveau de l'étude. Les gens qui n'étudient pas, c'est exactement pareil parce qu'il n'y a pas de conscience. Quand tu prends conscience de quelque chose, tu commences à vivre et c'est la même chose elle-même qui te pousse. De l'intérieur, elle te réveille. Ken? Par exemple, Arizal nous dit qu'on n'a jamais mis les tefilines sur la tête. Personne. Le Arizal nous dit qu'on ne pose pas les tefilines sur la tête. Ce sont les tefilines que tu as à l'intérieur de ton être qui, chaque matin, sortent de la tête. Vous avez compris la différence? Toi, tu as l'impression que tu prends des tefilines qui sont dans une pochette et tu les poses sur toi. Le Arizal nous dit que ce n'est pas quelque chose d'étranger. C'est quelque chose que tu as en toi et qui sort, qui se met en relief chaque matin. Et toi, tu vas prendre des téfilines pour faire comme si. Kansou, Kansou. Ah, N qui saute. Il y a deux chaises. Ah non. Donc, il y a un mouvement et une poussée intérieure de l'âme continuelle, matmedet, vechazaka est très puissante. La chouve et la haine sofiot amekori de revenir vers l'infini, béni soit-il, qui est en fait la source de tout. Donc moralité, l'infini a créé le monde fini, et le monde fini tend à revenir vers l'infini. On est d'accord? C'est ça le jeu. C'est tout. L'infini a créé le fini, et le fini cherche l'infini. Alors, s'il faut chercher l'infini, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter ce monde? S'il faut quitter ce monde, on est en danger. Parce qu'on va, on va redevenir des vapeurs. Donc toute la force, c'est de ne pas quitter ce monde. C'est de trouver l'infini et de l'amener dans le fini. D'accord? Les filles, chez Kol Inyan Abria, Huka Amor Ayetzia Mina Achdut, Ha Elohit, El Haribui, chez Kol Anivraim. Donc je résume en fait de ce que représente en fait toute la création. La création du monde, c'est quoi? Bien, c'est sortir de l'unité divine pour arriver au pluriel du monde. Bien, je pèse les mots. Si vous avez des questions, chaque mot, je le pèse avant de le dire. On sort de l'unité divine pour arriver dans un monde de pluralité. Ça veut dire que ce monde, en fait, la lettre qui lui correspond, c'est quoi? Le bet. Bet, c'est le pluriel. C'est le début du pluriel, on est d'accord. L'unité, c'est quoi? Aleph. Comment on dit sortir ou dehors en hébreu? Non, ça, c'est en hébreu moins recherché. Comment on dit en dehors? Bar, comme bar mitzvah. Okay. Bar yochai. Qu'est-ce que c'est bar yochai? Celui qui est sorti de yochai. Il est en dehors de son père. D'accord? Donc, si je sors de l'unité, l'unité c'est la lettre Aleph. Donc, sortir du Aleph, comment ça se dit? Bara. C'est toute la création, bara. Bet, resh, aleph, bereshit, bara. Donc au commencement, qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Une sortie du aleph. Donc bar, aleph, bara. Sortir de l'unité. Moralité, quand vous sortez de l'unité, vous arrivez au pluriel. On est d'accord? Donc le pluriel, qu'est-ce qu'il fait? Le pluriel, c'est nous. C'est des milliards et des milliards de détails. Dont le dénominateur commun de tous ces détails, c'est le désir intérieur de revenir vers l'unité. D'accord? Donc, du Aleph, on est arrivé au Bet. Ça, c'est la création du monde. La Teshuvah, c'est revenir du Bet pour découvrir le Aleph. C'est ce qu'on appelle la notion de Olam Ha-Ba. Le Bet qui va vers le Aleph. C'est ça le Olam Ha-Ba. Ken. Alors on tend vers, on accepte notre état de faiblesse, de pluralité, et on essaye de faire dans cet état de pluralité le maximum de choses qui sont de l'ordre de l'unité. Nachon, tout à fait. Mais ça n'a pas été d'être le pluriel pour rester le pluriel. Ça a été d'être le pluriel pour retrouver à l'intérieur de ce pluriel l'unité de Dieu. C'est ça le secret. Si tu continues le pluriel dans le pluriel que tu es déjà, tu es dans la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Asse lanu Elohim, asher yelchu lefanenu. Fais-nous des dieux qui marcheront tout au pluriel devant nous. Ça veut dire quoi? On veut continuer en fait le pluriel. On se sauve de plus en plus de l'unité. Problème. Pluriel, ça veut dire toutes les forces de ce monde. Par exemple, quel est le lien entre ce stylo et cette feuille? Tu vois bien que c'est difficile à trouver l'unité entre eux. D'accord? Mais tout le secret, c'est de trouver l'unité entre eux. C'est-à-dire que ce stylo va me permettre d'écrire. Donc il y a un lien, il y a un mariage entre mon stylo et la feuille. Je les ai mariés, j'ai écrit un texte. Mais si tu ne vois pas, eh bien, tout le monde dans lequel tu seras, sera un monde de dispersion totale. Je vous pose une autre question pour que ce soit un petit peu plus clair. La Teshuvah est un sujet très profond. Votre corps, quelqu'un qui s'appelle David. David, c'est qui? C'est l'ensemble de ses membres? Ou plus que ça? C'est un petit peu plus que ça, non? L'ensemble de ses membres, ce n'est pas David encore. Mais lorsque tous ces membres-là font quelque chose de commun, ils réalisent qui? David. On est d'accord? Imaginez-vous que chaque membre dans le corps fasse autre chose. En même temps, l'ensemble David veut aller à la yeshiva, mais la main droite lui dit, moi, j'ai envie de couper des tomates. La main gauche lui dit, moi j'ai envie de dormir, je suis fatigué aujourd'hui. La tête lui dit, nous on est plusieurs, on a des oreilles, des yeux. Les oreilles veulent aller au bowling, les yeux veulent voir un film, le nez veut sentir des parfums et la bouche veut manger des cacahuètes. Est-ce que David va arriver à la yeshiva? Il ne pourra pas arriver à la yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas ce David-là. Chaque membre est dominateur. Il n'y a pas de David. Quand David arrive à la yeshiva, ça veut dire que tous les membres de son corps, ses mains, ses pieds, ses yeux, ses oreilles, sont tous dans la même direction. Ils comprennent tous qu'ils doivent aller à la yeshiva. On est d'accord? Ils jouent tous le rôle, tous le jeu. De qui? De David. Mais c'est la même chose dans ce monde. Si ce monde nous paraît comme un ensemble de membres, des fenêtres, des livres, des feuilles et des stylos, aucun rapport entre eux, eh bien, on n'arrivera nulle part. Mais si tu commences à comprendre et à chercher, à étudier quel est le sens commun de tout ça, vers où tout ça va, tu commences à être comme David qui va arriver à la yeshiva. D'accord? Zehu shoresh hamila bara. Donc maintenant, textuellement, ce qu'on vient de dire par cœur, voici la source du mot bara qui veut dire la création. Sheperusho bar aleph. Donc sortir du aleph. Michutz le aleph. Donc en dehors du A. O bemunachim lo azim ou en français ex ist. Ça veut dire sortir à l'extérieur de l'existence. Hamevatim et toto inyan shel ha'amida bachutz. Donc en réalité, le monde est sorti du divin. Le divin a créé le monde comme une maman accouche un bébé. D'accord? Le monde tout entier, toute la création, tout le cosmos, tout l'univers, c'est le bébé de Dieu. Dieu a accouché de ce monde. Asher alken, godel hatshuva ve'amitutat taluyhu bebriuto hanafshit shel ha'adam. Moralité, comment est-ce que tu vas pouvoir étudier ce sujet, il est immense ce sujet de la teshuva. Mais tout simplement, plus tu deviens grand, plus tu joues le rôle de l'homme, avec tout ce que ça représente, plus tu es proche de la notion de teshuva. Mais si la teshuva pour toi, c'est seulement un petit degré, qu'avant Rosh Hashanah, tu commences à avoir un petit peu la trouille parce que tu as fait quelques petites choses un petit peu négatives, et tu te tapes sur la poitrine pour te dire « Oh là 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 là, je vais recevoir des coups », c'est une teshuva, mais très, très infantile. On est d'accord. Là, on parle d'une teshuva beaucoup plus globale. Avant d'arriver à cette teshuva, elle existe aussi. On ne la néglige pas. Mais elle commence par des degrés beaucoup plus grands. Et c'est l'Adam Bari, donc un homme qui est sain, veshalem et entier, tiye teshuva nechona vetivit. Mais la teshuva chez lui deviendra quelque chose de très naturel. Il va tout simplement vers lui-même, vers sa vraie nature, comme Dieu l'avait prévu. Quand Dieu nous a créés, il nous a prévus pour être quelqu'un ici. Okay? Quand Dieu vous a mis, quand vous étiez encore une neshama, avant de descendre dans le corps que vous avez maintenant, est-ce que Dieu avait prévu pour vous quelque chose? On suppose que oui, d'accord? Et tous les jours qui passent, ça fait, vous avez déjà 16, 17, 18, 19, 20, 25, 60 ans, vous essayez de quoi faire, de trouver en fait, de vous rappeler de ce qu'il voulait de vous avant que vous descendiez. Seulement, comme on oublie vite, alors il y a un travail. Toute l'étude de la Torah, c'est seulement pour se rappeler de ce qu'on vous a dit avant de venir, un instant avant. Et pour ça, on vous donne 70 ans, 80 années dans ce monde. Juste pour vous souvenir de ce que Dieu voulait de vous quand tu es venu ici. Quand juste avant que je rentre dans le corps de ce que vous voyez maintenant ici, Akadosh Baruch Hu m'a dit, Yoel, toi tu vas être 1, 2, 3. Et bien toute ma vie, je cherche à me rappeler ce qu'il m'a dit, Yoel, tu seras. Et des fois on est 4, 5, 6. Aucun rapport avec le 1, 2, 3. Et on fait fausse route, on est hors sujet. Donc il faut entendre, se souvenir du 1, 2, 3 qui a été prévu pour moi. Pour se souvenir, il me faut une journée spéciale, la journée du souvenir. Comment elle s'appelle cette journée du souvenir? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron. La journée du souvenir, c'est tout. Donc, le Rosh Hashanah, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est pas vous êtes venu à la synagogue pour lire des pavés de 300 pages. Vous voyez la tfila déjà à l'avance, vous vous dites, oh là là, jusqu'à qu'on finisse tout ça encore deux jours, plus Shabbat. Bien. Si tu es venu pour lire des pavés de textes, reste à la maison. C'est pas ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faut que tu retrouves ton identité, il faut que tu te souviennes. C'est le jour du souvenir, alors fais un effort, souviens-toi. Alors on te donne des textes à lire, effectivement. Mais c'est pas pour blablabla. Tiens, ça, il y a des perroquets extraordinaires. Ils peuvent le faire. Vous mettez un disque, un enregistrement, et tout le monde écoute et c'est tranquille. C'est pas ça. Chaque mot doit être pesé. Donc il vaut mieux lire moins, mais avec conscience, que blablabla, sans rien comprendre et sans rien mettre sa tête dans rien. Marqué comme ça, c'est les sages qui nous le disent. Me'at bekavana, tov me'asher harbe bli kavana. Faites attention à ce que vous lisez. Prenez conscience. Mettez-vous à l'intérieur. Chaque mot doit être une force. C'est une création. Donc ça devient naturel. Ela sheba Torah vechitcha davar nosaf vehu sheyesh gam tshuva lacholim. Ça veut dire que normalement, qui fait tshuva? Qui doit faire tshuva en fait? Les gens normaux. Les gens qui sont saints d'esprit. Donc quel est le chidouche, la nouveauté de la Torah? C'est que même les gens qui ne sont pas saints d'esprit doivent faire tshuva. Comprenez, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a l'habitude de comprendre. Nous on se dit, qui doit faire tshuva? Les mauvais. Là, on te dit l'inverse. Les bons doivent faire tshuva. Pourquoi? Parce que naturellement, ils ressentent ce devoir. Mais la Torah vient nous donner un cadeau et nous dire que même les mauvais, ils peuvent faire tshuva. Okay? Ça vous a tourné un petit peu les choses. C'est-à-dire, ça vous les remet en place. Les mishechet chatou veitrachakou mitivam. Donc la teshuva, le chidouche, la nouveauté de la tshuva, c'est pour ceux qui se sont éloignés de leur identité, de leur nature. Ça, c'est la nouveauté. Les miche ibdou bederech et briout rouchehem, ceux qui ont perdu leur sens en route. Où est-ce que tu as laissé tes sens? J'en sais rien, je sais pas. Imaginez-vous un type qui se coupe et qui ne sent pas qu'il saigne. Ça existe. C'est une maladie grave. Ça veut dire qu'il peut mourir sans s'en rendre compte, parce qu'il ne sent même pas qu'il saigne. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui ont perdu leur sens, et donc ils se perdent, et ils ne savent même pas qu'ils sont en train de se perdre. Gam hem yecholim. Mais la tshuva, la nouveauté de la tshuva, c'est que même ces gens-là, même ces malades, entre guillemets, gam hem yecholim lehenot me'ora shel tshuva, eux aussi peuvent profiter de cette lumière de la teshuva, lachzor ulehitztaref letahalich hatshuva akolelet, de rentrer dans le mouvement naturel de la teshuva. Alors je vous pose une question pour savoir si vous avez compris. Si je devais donner une flèche, la teshuva, elle est du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Donc vous n'avez rien compris. Donc je dois recommencer mon shiur. La teshuva, elle est toujours du haut vers le bas. Parce qu'elle commence avant même la création du monde. Ça veut dire que la teshuva, c'est un mouvement en fait de remplir ce monde de divinité. Donc je vous ai dit, même quand je dis que le bet doit revenir au aleph, c'est tout simplement de mettre plus de aleph dans le bet. C'est pas de nous sauver d'ici. Donc je vous repose la question, la teshuva elle est du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Du haut vers le bas, toujours. Alors qu'est-ce que je fais moi quand je fais teshuva? Je m'inscris dans quelle direction? Du bas vers le haut ou le haut vers le bas? Du haut vers le bas, comme Dieu lui-même. Je ne fais pas quelque chose de nouveau. Je vais dans la même direction que lui. Lui veut devenir un petit peu plus sur terre, eh bien moi je dois l'aider. Tout à fait. Je dois ouvrir mes portes pour le laisser passer par moi et l'aider, travailler ensemble avec lui. Ce qu'on appelle en hébreu « email ». Im-el. Ça veut dire « je travaille avec lui ». Je travaille, mon travail c'est de l'aider à dévoiler tout ça. Ça c'est dans les actes de ma vie tout simplement. Pas seulement dans ma parole. Il y a des gens qui aiment parler beaucoup, beaucoup. Okay, mais au niveau de leur vie, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle des philosophes. Okay. En hébreu, c'est pi-losof. C'est une bouche qui ne s'arrête jamais. Okay. Klomar. Shehatshuva hi gilui chesed gadol. Donc la teshuva est un dévoilement d'une grande bonté. La bonté de qui? D'Hachem. De faire quoi? De remplir la terre. Donc Hachem descend vers nous chaque jour, un petit peu plus. Pourquoi il doit descendre vers nous? Pourquoi il doit descendre vers nous? Il s'est retiré un jour pour descendre vers nous? Hein? Donc il veut vivre à travers nous. Donc où est-ce qu'il est? Il a quitté le monde? Alors qu'est-ce que j'ai besoin de faire s'il est déjà omniprésent? Ah, ça veut dire que quand on dit de le faire descendre, c'est pas de le faire descendre de 4 km d'altitude sur Terre. C'est tout simplement, il est déjà sur Terre, mais il est caché. Et notre force, c'est de le dévoiler, de découvrir, c'est tout. Descente, c'est dévoilement. D'ailleurs, dans le Har Sinai, quand tu prends le verset Vayered Hashem al Har, Dieu descenda sur la montagne, regarde le Targum de Onkelus, Ve'it Galia, il s'est dévoilé. Donc descendre dans la Torah veut dire se dévoiler. Ça veut dire, si je veux maintenant vous faire passer un shiur, je dois descendre. Autrement dit, je dois dévoiler ce que je veux dire. Dévoiler et descendre, c'est exactement la même chose. Donc Akadosh Baruch Hu dévoile sa lumière, donc il descend vers nous. Chesed Gadol me'et Hashem, me'et Aborek l'apé anivrav. Donc il est dans une extrême bonté vers ses créatures. ובכל זאת בקומתו של האדם השב בתשובה מוטל מאמץ שכרוך בניתוק עצמו מכל המסכים המבדילים בינו לבין בוראו. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire en fait pour découvrir Dieu? Je viens de vous dire la réponse. Découvrir. Qu'est-ce que ça veut dire découvrir? Enlever les couvertures. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, entre nous et lui, il y a des couvertures, il y a des écrans. Donc découvrir, c'est enlever les couvertures. C'est tout. De quoi sont faites ces couvertures entre lui et nous? De quelle matière? De nos fautes. Nos fautes, ce sont elles les couvertures entre lui et nous. Ça veut dire que tout ce qui nous sépare de lui, en fait, c'est nos erreurs. C'est nos sens qui? Nachon. Nachon. De par notre création, on est tout le temps dans l'erreur, mais tout doucement, on dévoile de plus en plus de divin. On ne sera jamais lui. On restera nous, des créés, mais on doit malgré tout évoluer, avancer. Tu as raison, on est condamné en fait à notre état de créature et non pas de créateur. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit devenir des créateurs. On ne nous a pas demandé ça. On nous a demandé de dévoiler son infinité sur terre avec nos mesures, ce qu'on peut faire. Donc chacun de nous doit enlever tout simplement les écrans qui le gênent. C'est la seule chose qu'on est venu faire ici. Dans le langage de la Torah, c'est déboucher les puits. Vous vous rappelez qui débouchait des puits dans la Torah? Avraham, Yitzhak, Yaakov débouchaient des puits. Ils creusaient des puits. Les Philistins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les bouchaient. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les débouchaient. Et les Philistins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les rebouchaient. Et eux, ils les débouchaient. Donc c'était un jeu entre ceux qui font des écrans et ceux qui les enlèvent. Donc il y a des gens dans ce monde qui font des écrans pour nous séparer du divin. Et il y a des gens dans ce monde qui, en réalité, enlèvent les écrans toute la journée. Et ça, c'est le judaïsme. Vous savez comment on dit un écran en hébreu? Ou massach, ou, dans un langage un petit peu plus raffiné, lot. Comme le fameux Lot. Donc la Torah nous dit en fait par allusion que à l'histoire de Abraham et de Lot, c'est l'histoire de celui qui dévoile la lumière et de l'écran. Et il y a une discussion entre l'écran et la lumière. Qu'est-ce que Abraham dit à Lot? S'il te plaît, va là-bas. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ça veut dire, ne sois pas dans le même endroit que moi, parce que si tu me fais écran avec Dieu, j'ai raté ma mission. Vous avez compris? Lot, c'est quelle racine? La met-tête. Tron? La met-tête. La met-tête, c'est quoi? C'est la malédiction. Okay. Lat, c'est la malédiction. Et il y a en fait tous les degrés de la vie qui peuvent en fait devenir des écrans si on ne sait pas les utiliser. Combien de travaux il y a dans le monde? Lamed Tet, 39 travaux. Les 39 travaux avec lesquels on n'a pas le droit de se servir pendant Shabbat. Maintenant, vous comprenez pourquoi on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Parce que si on travaille Shabbat, qu'est-ce qu'on crée ? Des écrans, encore plus forts. Et donc la lumière du Shabbat ne peut pas pénétrer dans notre vie. Et donc, puisque Lamed Tet est égal malédiction, celui qui n'observe pas le Shabbat, en fait, il est maudit, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire, il est maudit ? Il s'éloigne de Dieu. Dieu et lui sont séparés par un écran. Et quand il va écouter un cours de Torah, ça ne pourra pas pénétrer en lui. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu imperméable. Comment on dit imperméable en hébreu ? Atum. Atum. Vous connaissez le mot metumtam. Donc il est devenu complètement imperméable. Bouché à la lumière, donc metumtam. Comme ça c'est écrit, vos fautes ont fait la séparation entre vous et moi. Donc, tout ça, c'est issu de quoi ? De toutes les déviations de l'homme. Vous vous rappelez, ceux qui ont déjà étudié avec moi, quelqu'un qui danse en hébreu, on l'appelle qu'il est roked. Comment on l'appelle ? Rakdan. Quelqu'un qui nage, il est soché, on l'appelle Sachyan. Et quelqu'un qui dévie, qui est sauté, on l'appelle Satan. Okay? Donc Satan n'est pas un ange avec la fourche du Club Med. Satan, c'est la force de déviation de l'homme qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc chacun en lui a une force de déviation qui s'appelle le Satan. Et si tu dévies en fait de ta route, okay? Eh bien, tu sors de la direction normale des choses, tu sors de la normalité, tu sors donc de la vie, tu t'éloignes de la vie. Donc, toutes ces stiota vechataav, chataav, comment vous traduisez chet? Si c'était pour vous dire ça, j'aurais dit moi-même. Chet, vous avez fait l'armée?
On a raté.
Il a fait, quand on a raté. Quelqu'un qui rate une cible, on dit hu hichti. Hichti le hachti. C'est raté. Donc, chet ne veut pas dire une faute, veut dire une erreur de tir. Tu as tué à côté de la cible. Donc, quelqu'un qui fait des chataïm, c'est pas qu'il fait des péchés, c'est qu'il fait des déviations. On lui a donné un fusil et il tire n'importe où sauf sur la cible. Alors, un type comme ça, on lui enlève vite le fusil. Mais c'est la même chose dans notre vie. C'est un danger public. Un homme qui est chas v'shalom, qui tire pas dans la cible, il y a un problème avec lui. Eh bien, les fautes, c'est la même chose. Donc tout ceci jusqu'à revenir à la situation normale, saine, shel chibur hashamayim ve'aretz, à refaire le lien entre le ciel et la terre. Comment on fait le lien entre le ciel et la terre? C'est le but même de la création, okay? C'est le premier verset. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Pourquoi? Pour qu'ils se marient, pour qu'ils soient ensemble. Et malheureusement, quand on fait des fautes, quand on fait des erreurs, quand on tire à côté, qu'est-ce qu'on fait? On sépare le ciel de la terre. Donc vous avez des hommes qui sont complètement terrestres, des animaux, ou alors des hommes qui sont complètement esprits, spirituels, qui ne sortent jamais. Les deux ne sont pas bien. Il faut l'union des deux, il faut être saint sur terre. Il faut être divin sur terre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nous sauver, de nous cacher dans des sphères, et il ne s'agit pas de devenir des hommes seulement matériels de la terre non plus. Les deux extrémités sont dangereuses. On va terminer ici. Juste, je vous laisse quelques instants. Si vous avez une question ou deux, quelque chose avant de terminer le cours, un petit peu plus à expliquer. On continuera avec Bezrat Hashem la semaine prochaine. Je termine juste le texte. Chibur shamayim va'aretz bekol arevadim shel nafsho rucho venishmato. Et tout ceci dans les trois degrés de l'homme au niveau de son corps. Du sang qui l'anime, donc du nefesh, de l'âme animale, de l'esprit qui se trouve dans son cœur et de sa neshama qui se trouve dans son cerveau. Donc ces trois degrés doivent être saints, il doit revenir à cette bonté divine naturelle qui est en lui. Ok. C'est pas dit qu'il fallait pas trop être spirituel. Il faut pas croire que la spiritualité c'est se sauver complètement de la vie.
D'où tu sais? Où c'est marqué?
Au contraire, il y a marqué qu'ils sont enterrés entièrement dans le sable. Tu comprends? Parce qu'on lit la Gemara d'une manière erronée. On nous raconte des histoires comme si Rabbi Shimon Bar Yochai il avait un idéal d'étudier la Torah dans des cavernes. C'est ce qu'on croit tous. Parce qu'il n'y avait pas de yeshivot, donc il était, ça fait bien d'étudier la Torah dans des cavernes avec des bougies, ça fait plus sérieux. Okay? Jamais de la vie. Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il est parti dans une caverne? Parce qu'on le poursuivait, il était condamné à mort, tout simplement. Mais c'était un homme normal. Hein? Alors les gens font de ça un idéal. Étudier la Torah dans une caverne, ça fait in. Étudier la Torah sur une chaise avec une table, ça... Vous comprenez? Donc c'est tout à l'envers. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'inverse. Rabbi Shimon Bar Yochai veut que le divin soit sur terre. Donc au contraire, il faut faire le lien des deux. Toda Rabba.